Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans La Voix des Songes. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre découverte de l'art d'interpréter les rêves durant l'Antiquité. Je vous invite à réécouter la précédente émission sur radiofmplus.org à la rubrique La Voix des Songes, durant laquelle nous avions présenté les considérations des anciens pour leurs rêves. Nous avions notamment porté notre attention sur les rêves dits démoniaques, qui n'étaient jamais retranscrits et encore moins interprétés. Les livres des songes de l'époque prescrivaient à leur égard des rituels et autres incantations très précis pour les liquider. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus en détail aux rêves prophétiques, les seuls dignes d'être retranscrits et interprétés durant l'Antiquité. On retrouve deux grands types de rêves prophétiques, les rêves théophaniques et les rêves messages. Commençons par les rêves dits théophaniques, terme technique que l'on n'utilise pas tous les jours, il faut bien le reconnaître, et qui sert à qualifier des rêves où se manifeste un dieu pour révéler quelque chose au rêveur. Dans de très rares cas, la divinité qui apparaît en rêve peut également offrir quelque chose au rêveur. On parle alors, dans ces circonstances bien précises, de rêve charismatique, terme qui signifie étymologiquement, grâce accordée par un dieu. Dans le cas des rêves théophaniques, le rêveur n'est pas n'importe qui. Au départ, on ne trouve que des rêves théophaniques obtenus par des rois. Ceci est dû au fait qu'en Égypte, comme en Mésopotamie, le pharaon ou le roi de la cité-état est de nature divine. Il n'est pas un homme comme les autres. Il est donc le seul à avoir le privilège de tels rêves. Voici un exemple en provenance d'Égypte. Le rêve en question concerne le prince royal Toutmosis, futur pharaon Toutmosis IV, ayant régné vers 1400 avant Jésus-Christ. C'est la plus ancienne retranscription d'un rêve retrouvée à ce jour en Égypte. Le rêve est gravé sur la stèle située entre les pattes avant du célèbre sphinx de Gizeh. Voici ce qui est gravé. Un jour parmi les autres, le prince royal Toutmosis était venu se promener à l'heure de midi. Il s'assit à l'ombre de ce grand dieu, en l'occurrence le grand sphinx, et le sommeil et le rêve s'emparèrent de lui au moment où le soleil était à son plus haut point. Il constata que la majesté de ce dieu sacro-saint parlait de sa propre bouche, comme un père qui s'adresse à son fils. Regarde-moi, jette les yeux sur moi, ô mon fils Toutmosis, je suis ton père. Je t'accorde ma royauté sur terre, à la tête des vivants. Tu porteras donc couronne blanche et couronne rouge sur le trône de Geb, le dieu héritier. À toi sera le pays, dans sa longueur et sa largeur, ainsi que tout ce sur quoi l'œil du Seigneur universel répand sa lumière. Mon visage est tourné vers toi et mon cœur vole vers toi. Vois l'état où je suis et mon corps douloureux, moi le maître du plateau de Gizeh. Le sable du désert sur lequel je trône s'avance vers moi. Aussi dois-je me hâter de te confier la réalisation de mes vœux, car je sais que tu es mon fils qui va me protéger. Approche, vois, je suis avec toi et je suis ton guide. À peine eut-il achevé ces mots que le prince royal s'éveilla, parce qu'il venait d'entendre ce discours. Il reconnut que c'étaient les paroles de ce dieu, et il garda le silence en son cœur. Il faut juste resituer un petit peu le contexte historique. Toutmosis était bien prince royal, mais il avait un frère aîné, donc il n'était pas censé être pharaon. Suite à ce rêve, il se trouve qu'il est effectivement devenu pharaon, il faut bien l'avouer, en ayant liquidé son frère au passage, et en récompense de l'accession au trône, il a réalisé le désensablement du sphinx. Ce rêve, donc gravé entre les pattes avant du sphinx, est typiquement un rêve théophanique par la manifestation d'un dieu, ici le grand sphinx, mais également un rêve charismatique car le grand sphinx lui accorde sa royauté sur terre, c'est-à-dire l'accès à la fonction royale. Ce rêve est également typique de son époque, que ce soit en Égypte ou en Mésopotamie, car la manifestation et l'annonce divine ne sont jamais remises en cause. Si un dieu apparaît dans un rêve, c'est que ce dieu s'est réellement manifesté au rêveur. Dès lors, son message ne souffre d'aucune contestation. Les rêves étaient considérés comme le moyen privilégié et le plus précis pour qu'un dieu se manifeste. Si bien que l'on retrouve dans les livres des songes de cette époque des rituels et autres incantations pour provoquer ce type de rêve. C'est ce que l'on appelle le rituel d'incubation, qui correspond à un temps de préparation en général assez long, dans un temple, au sein d'une pièce spécialement dédiée à cet effet, afin que le roi puisse se préparer à recevoir un rêve théophanique, et si possible, charismatique. Au départ, on ne retrouve que des mentions de rêves obtenus par des rois, comme celui du pharaon Toutmosis IV, mais au long du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, on s'aperçoit qu'une lente et constante évolution s'est mise en place. Alors que seuls les rois au départ ont le privilège de tels rêves, ce sont ensuite les grands prêtres des temples qui en jouissent également, puis, petit à petit, quasiment tous les membres du clergé officiel, puis les grands administrateurs de l'État. Si bien qu'au début de l'ère classique en Grèce, quasiment tout le monde peut rendre compte de tels rêves. Les rituels d'incubation, quelle que soit la manière dont ils étaient menés, étaient très répandus durant l'Antiquité, auprès de certains prêtres, qui assumaient également la fonction particulière de devin, car elle leur permettait d'avoir des rêves prophétiques, le plus souvent théophaniques. Au final, ces rêves n'étaient jamais soumis à interprétation, car la parole d'un dieu ne pouvait être que vérité. Les dieux ne parlent pas dans un langage obscur, selon la croyance très répandue à l'époque. Dans le cas où le message n'était pas suffisamment explicite, on pouvait demander une confirmation. En rêve, bien entendu. Cependant, il existait aussi des rêves-messages, dans lesquels les dieux ou leurs messagers n'apparaissaient pas. Ces rêves étaient alors dits symboliques, car les éléments clés du message étaient remplacés par d'autres éléments. C'est ce que l'on appelait à l'époque le langage obscur des rêves. Ce sont ces rêves qui étaient soumis à interprétation. Et on peut rendre hommage aujourd'hui à ceux qui ont retranscrit ces récits nocturnes, systématiquement accompagnés de leur interprétation et de la méthode utilisée. Car il existait de nombreuses méthodes pour interpréter ces rêves. Ces rêves ayant trait aux événements futurs, ce sont les devins qui devaient les interpréter. Et il y avait deux grands types de devins à cette époque. Ceux qui exerçaient dans les temples, ils avaient donc le titre de prêtre et étaient reconnus officiellement, et ceux qui exerçaient en dehors des temples, qui étaient simplement tolérés. Cette distinction existe encore de nos jours entre les psychiatres, psychologues cliniciens et psychothérapeutes, qui sont des titres reconnus par l'État, à la suite d'une formation universitaire, et l'accord de thérapeutes en tout genre, tolérés quand ils exercent légalement, mais dont la formation est parfois inexistante, voire très folklorique dans certains cas. Cette différence, qu'elle soit antique ou contemporaine, ne dit cependant rien de la qualité interprétative et analytique de ces professionnels, quels qu'ils soient. Intéressons-nous, en premier lieu, aux prêtres devins qui exerçaient dans les temples. Pour interpréter un rêve obscur, et ainsi révéler les choses futures qui recèlent, ces hommes, et dans certains temples des femmes, avaient recours à l'intuition, qui signifie, étymologiquement, l'acte de voir d'un seul coup d'œil. Et c'est ce que l'on attend avant tout d'un devin, ou d'une devineresse, qu'il soit intuitif dans son interprétation d'un rêve. On va voir l'exemple des deux plus vieux rêves connus à nos jours que l'on retrouve au début des aventures de Gilgamesh. Nous consacrerons d'ailleurs une prochaine émission à Gilgamesh, premier rêveur de l'humanité. Gilgamesh était le roi mythique d'Uruk, cité bien réelle de la Mésopotamie, dans le sud de l'actuel Irak. Il était d'origine divine et avait pour défaut de s'en servir pour tyranniser son peuple. Afin de calmer ses ardeurs et ainsi soulager le peuple, les dieux décidèrent de lui envoyer un rival. Son arrivée est signalée en rêve à Gilgamesh dans un langage obscur. Le premier rêve. Tandis que m'entouraient les étoiles célestes, un bloc venu du ciel est tombé près de moi. J'ai voulu le soulever, il était trop lourd pour moi. Les habitants d'Uruk s'étaient amassés pour le voir et comme un petit enfant, ils lui baisaient les pieds. Moi je le cajolais comme une épouse. Second rêve. À Uruk était tombée une hache autour de laquelle s'étaient rassemblés les habitants d'Uruk pour l'adorer. Je l'ai ramassé, embrassé, et te l'ai amené pour que tu la considères comme moi. » Sa mère, à qui il raconte ses deux rêves, se trouve être une grande prêtresse. C'est bien pratique. Elle annonce alors à Gilgamesh qu'il va rencontrer quelqu'un d'égal à lui-même et qu'il deviendra son ami, et même plus que cela, son frère. L'interprétation immédiate qui lui est donnée est basée sur son intuition en tant que prêtresse devineresse, sans être questionnée ou remise en cause par Gilgamesh. Dans les cas où l'intuition n'apporte pas d'éclaircissement suffisant, ou pour confirmer une intuition initiale, les interprètes de rêves avaient à leur disposition plusieurs méthodes mantiques, c'est-à-dire divinatoires. En voici quelques-unes mentionnées dans les textes retrouvés. On commence par la clédonomancie, terme très barbare, qui signifie une méthode divinatoire basée sur les mots entendus par hasard. Pour obtenir la réponse à une question posée, par exemple « Mon interprétation de ce rêve est-elle juste ?», il suffit de tendre l'oreille et les premiers mots que l'on entend apportent la réponse. À chacun de nos jours de juger de la pertinence de ces méthodes, mais à l'époque, elles étaient très répandues. On continue avec la lécanomancie, autre terme très compliqué, qui est une méthode divinatoire grâce à un bol empli d'eau dans lequel on jette une pierre précieuse ou de l'huile. Dans le cas d'une pierre, c'est le son produit par l'impact qui était censé apporter une réponse. Avec de l'huile, la réponse se lisait en exploitant les taches formées à la surface de l'eau. Il y avait également la libanomancie, qui est la divination par l'encens, et qui consiste à lire la réponse en étudiant les volutes de fumée. Plus connus, les augures, la divination par le vol des oiseaux, qui est une méthode très répandue durant l'Antiquité, utilisée diversement selon les cultures et religions. Les devins grecs jouissaient d'une très grande réputation dans ce domaine parmi leurs contemporains. Et enfin, l'oniromancie, qui consiste à obtenir une réponse grâce à un ou plusieurs rêves. Ce terme d'oniromancie est ambigu. En effet, comme nous l'avons vu, tout rêve théophanique, mais également tout rêve symbole, au contenu obscur, est prophétique. Il rentre donc dans le champ de l'oniromancie, stricto sensu. Mais il existe aussi le cas particulier des rêves symboles, pour lesquels l'intuition se révèle parfois insuffisante pour dévoiler leur contenu prémonitoire. On peut alors demander à obtenir l'interprétation de tel rêve par l'entremise d'un autre rêve suite à un rituel d'incubation, comme je l'expliquais précédemment. Et c'est là le véritable sens de l'oniromancie à cette époque. Mais nous expliciterons et reviendrons sur ce terme d'oniromancie à travers des exemples de rêves antiques et contemporain, issu de mon expérience clinique, lors de notre prochaine rencontre. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur radiofmplus.org à la rubrique La Voix des Songes. la semaine prochaine. Et d'ici là, faites de beaux rêves.